France Culture.
À voix nue, Philippe Bresson. Quelques jours avec
Sandrine Bonner.
Premier épisode, à nos amours. 22 rue des Radars, 91 350, Grigny. C'est à cette adresse que vous avez grandi, au quatrième étage d'un immeuble de la Grande Borne, cité HLM utopiste conçue par l'architecte Émile Ayot à la fin des années 60. Septième d'une fratrie de 11 enfants, et même si certains sont partis habiter chez un oncle, cela fait encore beaucoup de bouches à nourrir pour un père ouvrier ajusteur dans l'aéronautique, dont le métier consiste, les pieds sur terre, à assembler les pièces des moteurs d'avion qui vont permettre à d'autres de s'envoler dans les airs. De son côté, la mère est au foyer, selon l'expression consacrée, sans pour autant exclusivement s'y consacrer. Volontiers rêveuse, audacieuse et libre, elle s'emploie d'abord à cultiver ses secrets. Été 1982, à la faveur d'une petite annonce dans le journal France Soir, vous voilà entraînée par votre sœur Corinne dans le bureau d'une société de production qui recherche des jeunes filles pour le prochain long métrage d'un certain Maurice Pialat. Maurice qui ? Inconnu au bataillon. Plusieurs rendez-vous parisiens avec le metteur en scène, avant qu'il ne vous choisisse pour être l'héroïne d'un film qui gifle autant qu'il caresse. À nos amours. C'est de dos que vous y apparaissiez, figure de proue d'un bateau. Vous vous retourniez, avec dans les yeux la force de votre cœur, comme pour nous dire du haut de vos 15 ans, « Regardez-moi ». Puis est venu le moment pour vous de regarder les autres en les filmant à votre tour, à commencer par votre sœur autiste, Sabine, à qui vous consacrez en 2007 un portrait bouleversant. Quand il évoque le film Jeanne la Pucelle, Jacques Rivette dit qu'il voulait plus encore porter à l'écran Sandrine Bonner que Jeanne d'Arc, et il rajoute « C'est rare, les personnes qui se tiennent droit dans la vie ». Bonsoir Sandrine Bonner.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes ici chez vous, dans votre appartement parisien, un lieu très haut sous plafond, inondé de lumière. Vous ne pourriez pas vivre dans une atmosphère sombre ?
Ah non, je peux pas. J'ai besoin de lumière. J'avais acheté un appartement pas très loin d'ici, que j'ai revendu 6 mois après. Sublime appart, mais il n'y avait pas assez de lumière. Et du coup, je l'ai quitté. Et j'ai trouvé ici, j'ai eu un coup de cœur, un coup de foudre, comme on peut avoir pour un amoureux. Et je me suis dit, c'est là, c'est ici qu'il faut que je sois. Et c'est vrai que cet endroit, je l'aime beaucoup. Il est propice à la création, à la rêverie. Et puis je vois le ciel, j'ai des verrières partout. Donc c'est un vrai luxe à Paris de voir le ciel et d'avoir de la lumière.
J'évoquais en introduction la cité HLM de la Grande Borne. Vous avez grandi à Grigny, dans l'Essonne. Mais avant cela, vous avez d'abord passé quelques années dans l'Allier, où vous êtes né, puis près de Montlhéry, je crois. Vous aviez quel âge quand vos parents ont emménagé à la Grande Borne ?
J'avais 9 ans. J'avais 9 ans. On a quitté l'Allier pour ensuite aller effectivement vers Montlhéry. On habitait ce qu'on appelait un chalet. Mais c'est franchement un endroit... Mon père et mon oncle avaient construit cet endroit. Et on a vécu pendant, je crois, 2 ans, sans eau, sans électricité, sans toilette. Et c'était une espèce de... Oui, on appelait ça le chalet, mais c'était un genre de très grand cabanon, on va dire.
Alors vous êtes arrivé à la Grande Borne, pardon, c'était...
Ah, mais c'était le luxe absolu. Il y avait l'eau courante, il y avait l'ampoule au plafond. Pour moi, c'était merveilleux. Enfin, il y avait de l'électricité, il y avait... du chauffage, enfin, c'était formidable, ouais.
En 1972, Émile Ayot, l'architecte de la Grande Borne, qui est aussi celui des tours nuages à Nanterre, disait ceci au micro de Louis Berriot. J'ai conçu cette cité pour l'enfant. J'ai voulu que l'enfant puisse être autre que ce qu'il aurait été s'il avait grandi ailleurs. qu'il puisse devenir un individu. Et il rajoute, vous voulez bien lire la suite, Sandrine Bonheur ?
Bien sûr. J'aimerais que l'enfant des pauvres que je loge, puisque je ne fais que des HLM, ait été éduqué à ne pas avoir peur, à ne pas avoir été surveillé, à ne pas avoir été entraîné par des moniteurs à jouer dignement. Et ce n'est pas l'habitation elle-même, mais l'entour qui me paraît important, cette sorte de tendresse.
Merci. Émile Ayot a tenté d'introduire dans le logement social d'autres valeurs que celles dictées par les seules exigences fonctionnelles, notamment plus de poésie. Est-ce qu'il y est parvenu, selon vous, à la Grande Borne ?
Absolument. La Grande Borne était un endroit de rêve, on peut dire ça. J'ai même le souvenir qu'il y avait un grand portrait d'Arthur Rimbaud, fait en mosaïque sur une des façades d'un des immeubles. Donc il y avait déjà de la poésie dans tout ça. Et je me demande si ce n'est pas grâce à lui que je suis devenue actrice, ou je me demande si c'est pas lui qui m'a donné l'envie du jeu. Parce que à la Grande Borne, tout était propice à l'imaginaire. Par exemple, juste en face de chez moi, il y avait un château fort. Et on jouait, moi j'étais souvent la princesse d'ailleurs. On jouait à D'Artagnan, on jouait, ça c'était les frangins, les sœurs. On s'inventait des histoires. Et c'était un vrai, vrai château. Et puis, sur les côtés, il y avait des toboggans. Il y avait aussi un grand toboggan avec, c'était une bouche de serpent. Avec une gueule ouverte, donc on pouvait s'introduire dans cette gueule ouverte et ensuite le contourner et monter sur son dos, et c'était aussi un toboggan. Voilà, c'était... Il a vraiment pensé aux enfants, et il y avait toute cette partie qui était le jardin d'enfance, et de l'autre côté c'était plutôt, on va dire, le coin des parents où il y avait les voitures, il y avait des parkings.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'horizon... Il est contrasté. D'un côté, vous venez de le décrire, des aménagements pour enfants sous forme de jardin, de sculptures et de mosaïques. De l'autre, les murs de la prison de Fleury-Mérogis.
Absolument. Ça, c'était le côté adulte.
Et au milieu, l'autoroute du soleil.
Oui.
Comme une promesse d'un ailleurs, peut-être ?
Absolument. D'un ailleurs. Et cette autoroute du soleil, on l'a bien connue avec ma sœur et avec mes amis, puisqu'on faisait du stop pour partir dans le sud. Donc on se mettait pas totalement face à l'immeuble parce que nos parents nous auraient vus, mais on allait un peu plus sur la droite et là, ça y est, on levait le pouce et on partait.
Alors adolescente, Sandrine Bonheur, vous vous rêviez plutôt en majorette, en chanteuse, en danseuse et curieusement, pas forcément en actrice de cinéma.
Non, pas forcément. Alors ce qui est sûr, c'est que je rêvais à être regardée, je pense. De rêver, on peut dire ça. Donc effectivement, c'était ou le chant ou la danse. Mais actrice, effectivement, j'y pensais pas tant que ça.
Mais je crois que la beauté, ou plutôt peut-être la liberté d'une actrice comme Brigitte Bardot, ne vous laissait pas indifférente, n'est-ce pas ?
Ah non, j'étais totalement fan. J'avais plein de posters d'elle dans ma chambre. Je regardais ses films à la télévision, puisqu'on n'allait pas au cinéma. Mais il y avait pas mal de ses films qui passaient.
Et la chanteuse aussi.
Et la chanteuse.
Et en particulier une chanson, Les cheveux dans le vent, dans une phrase, Le soleil me trace la route, donne son titre à un livre d'entretien que vous avez publié chez Stock en 2010, je crois. Une conversation à trois voix avec les journalistes Tiffy Morgue et Jean-Yves Gaillac. Est-ce que vous pourriez nous fredonner les deux premiers couplets de cette chanson de Bardot ?
Oui, écrite par Jean-Max Rivière.
Oui, Jean-Max Rivière, quel personnage qui a
grand
fondé
parolier.
L'Alcazar, l'Ange Bleu, le Paradis Latin. Et il se définissait lui-même dans les années 70 comme un entrepreneur des travaux publics.
J'ai eu la chance de le rencontrer.
C'est vrai ?
Ah oui, il m'a même écrit des chansons, figurez-vous, que je n'ai pour l'instant pas chantées. Mais c'est lié au livre, c'est un ami qui a fait le lien, qui l'a contacté et on s'est rencontrés, puisque j'avais pris cette phrase de cette chanson, et on est devenus très 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 amis.
Et cette chanson de Bardot, vous en souvenez ?
Oui. J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route, qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan de fleurs bleues au bord de la route. J'ai noyé mes yeux dedans, mais hélas, j'ai perdu trop de temps.
Merci beaucoup. Vous avez 10 frères et sœurs, 5 frères et 5 sœurs, vous êtes la 7e. Comment fait-on, Sandrine Bonnaire, pour trouver sa place dans une fratrie pareille?
On pousse.
On essaye de se faire remarquer?
Oui, c'est un peu ça. Mmh. À la fois, on est noyé dans la masse, dans le nombre, et puis en même temps, il faut par moments pouvoir se faire entendre. Donc, on parle fort. Quand je dis on pousse, c'est un peu ça.
On parle vite?
On parle vite, on parle fort, on parle beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et on regarde aussi. Je crois que ça a été une force d'avoir été si nombreux. Parce qu'on est obligé de penser à l'autre. On est obligé d'aider l'autre, on est obligé de regarder l'autre, on est obligé de partager avec l'autre. Avec les autres, plus exactement, oui. Donc, c'est un peu contraignant quand on est enfant, mais quand on grandit, on se dit que c'est quand même une vraie richesse. Et dès qu'il y a un pépin, on est plusieurs à pouvoir voilà, se relayer, s'entraider, et c'est vraiment chouette.
Je disais en introduction que votre père était ouvrier ajusteur. Comment fait-on, quand on a un salaire d'ouvrier ajusteur, pour subvenir aux besoins d'une aussi grande famille? Certains sont partis habiter chez un oncle. Est-ce qu'il aidait votre père financièrement?
Oui, c'était quelqu'un qui... C'était le frère de ma mère. Et effectivement, il aidait. Il aidait pas mal financièrement. Par exemple, quand je vous parlais de ce chalet où on a habité, on n'avait pas d'eau. Donc, toutes les semaines, il allait remplir des énormes jerrycans qui nous amenaient pour pouvoir boire, se laver.
Et que faisait-il, lui, dans la vie?
Il avait une société de transport. Et il était spécialisé dans les pianos. Il était porteur de pianos.
Joli métier. Votre père est décédé alors que vous étiez encore très jeune, à peine 19 ans, je crois. Y a-t-il, selon vous, un rapport de cause à effet entre son métier, les matériaux qu'il manipulait, et son décès prématuré? Quel âge avait-il quand il est décédé?
Oh, il n'était pas en âge de mourir, il avait que 56 ans. Mais il faisait déjà très vieux. Il était, abîmé par, effectivement, le travail, la vie aussi, parce que je pense qu'il n'était pas du tout heureux avec ma mère, et vice-versa. Mais le travail, oui, je peux dire que le travail l'a tué. Il travaillait dans l'amiante, donc cancer du poumon. Bon, il était fumeur, hein, je pense que ça a contribué aussi, mais il a été reconnu qu'il est quand même mort de l'amiante, puisque ma mère a touché une pension à vie par la suite.
Avec votre père, vous regardiez des films à la télé. Je crois qu'un film de François Truffaut, La femme d'à côté, avec évidemment Gérard Depardieu, Fanny Ardant, vous a beaucoup touché tous les deux. Particulièrement.
Ah oui.
Vous l'êtes dit ou vous l'avez silencieusement ressenti?
Non, on se parlait pas beaucoup avec mon père, on se disait rien. Mais tout passait par les regards. Et non, je me souviens quand à la fin du film, je suis allée dans les toilettes pour pleurer. Je me suis cachée justement. Parce que je pense qu'il m'aurait dit, oh mais qu'est-ce que t'as pleuré comme ça?
Et lui, vous l'avez senti ému aussi?
Oui, très, très. Mon père c'était un vrai taiseux, il était assez austère comme ça, mais en même temps, on voyait tout dans son visage. Quand il était heureux, quand il était ému, il y avait son œil noir, très, très noir, il avait des yeux très noirs, il fronçait souvent les sourcils.
Comme
on
vous,
a tous,
comme vous.
Exactement, on a tous hérité de lui pour ça. Et quand le sourcil était détendu, c'est qu'il était ému ou joyeux.
Là, je vous regarde et le sourcil est détendu. Votre mère était témoin de Jéhovah, avec toutes les contraintes que cela suppose pour un enfant qui n'a pas tellement d'autre choix que de suivre le dogme. Pas de fête d'anniversaire, par exemple, c'est interdit. Mais votre mère n'était pas que ça, évidemment. Comment vous la décririez, Sandrine Bonnaire?
Je crois que je lui dois beaucoup. Et ça, je l'ai compris avec le temps. J'avais une relation assez compliquée avec elle pendant très longtemps. Et puis, on va dire, je crois que depuis que je suis mère, je la comprends mieux, je l'ai mieux comprise. Je lui dois beaucoup de choses dans le sens où je crois qu'elle nous a offert ce magnifique cadeau qui est d'avoir envie de déplacer des montagnes. Elle avait une phrase qui était « l'impossible est possible ». Et voilà, je crois que j'ai grandi avec ça. Et elle avait toutes les audaces. Elle était extrêmement frondeuse. Et je crois que j'ai hérité de ça.
Vous faites vos premiers pas devant la caméra en tant que figurante. D'abord dans le film de Claude Pinoteau, La Boum, en 1980, vous avez 13 ans. Puis dans Les Soudoués en vacances de Claude Zidi, 2 ans plus tard. Comment êtes-vous passé, votre sœur Lydie et vous, du jardin d'enfants de la Grande Borne au plateau de tournage, même si c'était pour y faire de la figuration?
C'est le père d'une copine de classe qui travaillait dans la figuration. Il était spécialisé dans les castings pour enfants. Enfin, figuration pour enfants. Pas tout à fait des castings, d'ailleurs. C'est lui qui gérait ça. Enfin, il avait l'air de faire ce travail-là tout le temps. Et donc, cette copine, Linda Pinon, je me souviens de son nom, elle nous avait dit, Lydie et moi, est-ce que vous voulez venir faire de la figuration sur la Boum? Et puis nous, on a dit oui, bien sûr. Ce qui nous intéressait, c'était surtout d'avoir de l'argent de poche. Et on a fait quelques jours de figuration. Normalement, on devait rester un peu plus, mais ça nous a saoulés assez vite, en fait. On a dû faire 3-4 jours, et puis...
Et puis c'était une ouverture, j'imagine, sur un ailleurs qui était comme une récréation. Au collège, vous êtes plutôt malheureuse. Vous ennuyez royalement dans une classe professionnelle où on vous apprend notamment la cuisine. Il est aussi question d'un CAP de coiffure, mais sans grande conviction. Jusqu'au jour où une petite annonce dans François va bouleverser le cours des choses. Racontez-nous.
Alors, c'est Lydie qui a fait des photos maton au centre Leclerc. Sur le rond-point de l'autoroute du Soleil, il y avait un grand Leclerc où on allait faire les courses. Et voilà, et elle a fait des photos. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qui a attiré l'attention de Piala, c'est que les photos étaient tachées d'encre. Et elle les a envoyées puisque on n'avait pas assez d'argent pour en refaire. Donc elle s'est dit, allez hop, on envoie ça, on verra bien. L'assistant de Piala a téléphoné. Fort heureusement, on avait le téléphone à ce moment-là. Parce que parfois, on avait le téléphone, parfois, on l'avait plus.
À cause de factures impayées, j'imagine.
Voilà, tout à fait. Et un jour, ça sonne. Et je ne sais pas pourquoi, je suis seule à la maison. Ce qui n'arrivait jamais. Mais en tout cas, j'ai le souvenir d'être seule. Et l'assistant dit, voilà, on voudrait rencontrer Lydie Bonnaire. Pour un film, on a eu ses photos, sa lettre, enfin bref. Et Lydie n'était pas là, elle était dans le sud avec son petit ami. Donc j'ai dit, écoutez, elle n'est pas là, mais je lui dirai de vous rappeler. Je raccroche et entre-temps, j'ai une autre sœur qui m'appelle, donc Corinne. Et moi, tout excitée, je lui dis, mais écoute, c'est dingue, il y a une production qui a appelé. Ils veulent voir Lydie, Lydie va faire un film, parce que je pensais que ça marchait comme ça. À partir du moment où on appelait, on était choisi. Et ma sœur Corinne me dit donne-moi le numéro, moi j'ai envie de les appeler pour faire de la figuration. Elle me dit tu viendras avec moi? Je dis non, moi la figuration ça me saoule, j'en ai déjà fait 2 fois et ça m'intéresse pas du tout. Et puis bref, Corinne appelle la production et on lui demande de se présenter. Elle me rappelle, elle me dit viens avec moi. Et franchement, je voulais pas y aller. Mais bon, elle a insisté et du coup, on y est allés toutes les deux. On a rencontré Piala, qui nous a fait jouer une petite scène d'impro, qu'on a trouvé très facile à faire. Et puis, il nous a demandé de revenir avec Lydie 3 jours après. On est revenus toutes les trois, plus notre papa, qui voulait savoir où on mettait les pieds. Et voilà, et on a fait des impros comme ça pendant plusieurs semaines.
Elle et vous, Corinne et vous.
Et Lydie.
Et Lydie aussi.
Ouais. Et ensuite, il a évincé les deux autres. Et puis moi, je suis restée sur le casting à faire aussi des impros.
Ça n'a pas été trop difficile pour vos deux sœurs? Comment l'ont-elles vécu?
Pas trop mal, puisque, vous savez, c'est comme une équipe de foot. Quand il y en a un qui marque un but, eh bien, c'est l'équipe qui gagne.
Ah, mais c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Il n'y a que dans les grandes familles qu'on peut apprendre cette solidarité, cette sororité.
Voilà, tout à fait. Ouais. Ça se jouait sur la fin, sur une fille. Enfin, on n'était plus que deux, donc pour la famille, c'était formidable que je sois encore sur le terrain, quoi, si je puis dire.
Alors, de ce film À nos amours, on peut dire qu'il est autant un portrait de vous adolescente qu'une projection fantasmée de Piala, qui en jouant lui-même votre père à l'écran, devient père pour la première fois, en l'occurrence votre père de cinéma. Et j'insiste sur ce point parce qu'il me semble que c'est aussi cette relation singulière, particulière, qui participe de la force du film.
Oui. Piala s'est beaucoup inspiré de ma relation à mon père. Alors on dit que c'est l'histoire d'Arlette Langmann, bien sûr, et de Claude Berry, de la famille Berry, mais c'est aussi beaucoup la mienne.
Oui, c'est ça. Le film a été adapté d'une nouvelle qu'Arlette Langmann avait écrite, Les filles du Faubourg.
Oui.
Mais ensuite, Piala enrichit le scénario de votre rencontre.
Tout à fait. Et d'ailleurs, À nos amours, enfin, les filles du Faubourg, ça s'appelait comme ça, il y avait 5 filles, dont une qui était un peu plus importante que les autres, Suzanne. Mais c'était quand même l'histoire de 5 filles. Et au fur et à mesure, eh bien, ça s'est recentré sur cette Suzanne et cette Sandrine qui était moi. Et effectivement, le lien du père à la fille est très, très inspiré de ma relation à mon père.
En 1984, vous remportez le César du meilleur espoir féminin pour votre rôle dans À nos amours. Et c'est Sophie Marceau, l'héroïne de La Boum, qui vous remet le prix. Une première boucle est bouclée.
C'est plutôt joli. Absolument.
Comment ont réagi vos frères et sœurs? Étaient-ils fiers de vous?
Très fiers. Très, très fiers. Et surtout mon papa. Pour les deux Césars, il a été extrêmement fier. Parce qu'il n'y croyait pas. Et vous savez, quand vous venez d'un milieu qui n'est pas, qui est défavorisé, vous ne pouvez pas vous dire que ça peut arriver. Enfin, déjà d'atteindre ce métier, mais en plus de gagner des prix. Je pense qu'il y avait ce complexe de classe sociale. Et je crois que mon père se disait, non, mais ok, elle a fait un film, mais ça reste une petite nana de banlieue, et face aux autres, non, c'est pas elle qui va gagner. Et tout d'un coup, j'étais dans la cour des grands, et puis dans un pas dans ce monde social qui était éduqué, privilégié, bourgeois. Je pense que pour mon père, ça comptait beaucoup.
Mais qu'est-ce que c'est joli, cette histoire. Vous regardez tous les deux la femme d'à côté à la télévision. Vous êtes émus tous les deux. Vous ne vous le dites pas. Et finalement, vous permettez à votre père, un peu comme dans La rose pourpre du Caire de Woody Allen, de rentrer, de passer de l'autre côté de l'écran.
C'est exactement ça.
Ou comme Alice au Pays des Merveilles, de l'autre côté du miroir.
Tout à fait.
C'est extrêmement touchant, cette histoire.
Ouais, vraiment.
Tu m'as volé ma route, vous a dit votre mère.
Oui. Enfin, c'est ce qu'elle croit. C'est ce qu'elle croyait. Moi, je dirais que c'est un relais. Enfin, un relais. Non, pas un relais, puisqu'elle n'a pas fait ce métier. Mais c'est vrai que ma mère rêvait d'être reconnue, d'être. Elle était d'ailleurs très actrice dans la vie. Elle était très, très, très fantasque. Même dans la manière de s'habiller, dans sa manière de parler.
Je crois qu'elle aimait les chapeaux extravagants. C'est le cours d'Angleterre.
Ah ouais. Elle était bien plus voyante que la reine d'Angleterre. Je peux vous dire que les chapeaux de la reine d'Angleterre à côté, c'est la gnagnotte. Chez ma mère, il y avait des petites cerises sur les chapeaux. Il y avait des voilettes, il y avait des plumes. Ah non, c'était quelque chose. Et puis il y avait les robes qui allaient avec.
À propos de vos débuts dans le livre « Le soleil me trace la route », vous dites ceci. « On a toujours fait des sketchs avec mes sœurs, sketchs auxquels participait mon ami Widad. Je n'ai jamais suivi de cours d'art dramatique ni appris mon métier autrement que sur le tas, mais depuis mon plus jeune âge, j'ai toujours travaillé en m'entraînant physiquement, en chantant, en dansant, en jouant, en filmant. J'aimerais que vous nous parliez, pour terminer cette première partie, de cette grande amie, Widad, voisine d'HLM à Grigny, dont vous dites qu'elle vous a ouvert les yeux sur une autre culture, une autre façon de voir la vie et le monde, Sandrine Bonnaire.
Absolument. Widad, c'est un des plus beaux cadeaux de la vie que j'ai eu. Cette amitié a été J'en parle au passé puisqu'elle est morte d'un accident de voiture à 33 ans. Ça a été une des plus grandes douleurs de ma vie d'ailleurs. J'ai eu le sentiment de perdre la moitié de moi. On était tellement liés, tellement complices, tellement... On était comme des sœurs, quoi, vraiment. Et Widad et sa famille, il reste Raja qui est donc sa sœur, avec qui je suis très très liée, qui est une grande amie aussi. Mais voilà, la famille Bécouche nous a éduqués, vraiment. C'est eux qui nous ont donné le goût de la lecture, de la poésie, du regard sur le monde, du partage des cultures. Là, on parle tellement du droit du sol, qu'est-ce qu'être français, c'était une vraie richesse de partager ces cultures-là. Ma mère témoin de Jéhovah, venait faire le ramadan dans la famille Bécouche. C'est génial quand même. Il n'y avait pas de jugement sur la religion de ni d'un côté ni de l'autre. Enfin, je veux dire, il y avait un immense respect de.
Vous avez visité l'Algérie avec elle, découvert l'Algérie,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Elle aimait aussi partager avec vous son goût pour la littérature, et notamment Dostoïevski, Rilke. Je vous propose de terminer cette première partie par un extrait des Lettres à un jeune poète, un recueil publié par Rainer Maria Rilke en 1929. La traduction est de Sacha Silberfarb.
Rien d'autre n'importe que ceci, la solitude, la grande solitude intérieure, entrer en soi. Ne rencontrer personne pendant des heures. Voilà à quoi il faut parvenir. Être seul, comme on était seul enfant. Pensez au monde que vous portez en vous. Cette pensée, appelez-la comme vous voulez. Souvenir de votre propre enfance ou aspiration à votre propre avenir. Qu'importe. Ce qui se passe au plus intime de vous-même mérite tout votre amour. Les enfants sont encore comme vous étiez enfant, aussi tristes et heureux. Et quand vous pensez à votre enfance, vous vivez de nouveau parmi eux, parmi les enfants solitaires.
Merci, Sandrine Bonner.
Merci.
Demain, nous parlerons encore de cinéma et notamment du très beau film d'Agnès Varda, Sans toi ni loi, pour lequel vous avez obtenu le César de la meilleure actrice. Alors à demain.
À demain.
C'était À Voix Nue, chargée de programme Daphné Abgral, prise de son Lucien Lefebvre, réalisation Marie Placet. Une série de Philippe Bresson à réécouter et à podcaster sur le site de France Culture et l'application Radio France.